Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Notre deuxième personnage n'en est pas vraiment un, quoique. Une naissance, une date de mort, un physique particulier, dû notamment à son long nez.
J'ai toujours détesté Claude Guéant.
Mais non, on parle pas de lui, Stéphane. D'autant qu'il est bien vivant. Non, mais d'un avion de ligne, le plus rapide qui ait jamais volé. Une véritable légende de l'aéronautique qui franchit le mur du son à la toute fin des années 70. Stéphane Bern nous raconte le Concorde.
Nous sommes le 1er octobre 1969 à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il est aux alentours de 11h du matin lorsque, sur le tarmac, un appareil exceptionnel s'apprête à décoller. Une machine prodigieuse, presque un oiseau. Il n'a pas l'allure un peu rondelette des autres avions de ligne, les Boeing et autres avions de sud-aviation comme la Caravelle. Cet engin-là semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Longiligne, d'une finesse étonnante, il est muni non pas de deux ailes, mais d'une seule et unique aile delta, une aile dite gothique, semblable à une voilure. Son nez surtout ne ressemble à aucun autre. Il est pointu et allongé, tel le bec d'un martin pêcheur. Cet avion est un prototype, le Concorde 001, immatriculation FWTSS, TSS comme transport supersonique. Car l'appareil, produit d'une collaboration exceptionnelle entre la France et le Royaume-Uni, entre les avionneurs Sud-Aviation et la British Aircraft Corporation, est un avion capable sur le papier de dépasser la vitesse du son. Je dis sur le papier, car en ce début du mois d'octobre 1969, le Concorde n'a encore jamais atteint Mach 1. Ni lors de son vol inaugural 7 mois plus tôt, ni lors des 43 autres vols d'essai qui ont eu lieu depuis. Pas encore. Mais dans quelques minutes, cela pourrait bien changer. Aujourd'hui, sur cette piste de Toulouse où l'avion a été assemblé, les pilotes aux commandes vont pousser ces turboréacteurs à post-combustion plus loin et tenter de dépasser la vitesse du son tant espéré. Dans le cockpit très étroit de l'appareil, confortablement installé dans leur siège, les yeux rivés sur les innombrables cadrans et voyants, André Turca et Jean Pinet font leur checklist d'avant-vol. Les deux pilotes ont désormais l'habitude de l'appareil. C'est même André Turca qui l'a fait voler pour la toute première fois ce fameux jour du 2 mars 1969 devant une foule de journalistes et d'invités de la compagnie. Ce sont les mêmes gestes qu'il répète aujourd'hui, allumant un par un les quatre puissants moteurs Olympus avant d'aligner l'avion sur la piste de décollage. Malgré les 44 vols d'essai déjà effectués, la tension dans le cockpit et dans la tour de contrôle est palpable. Le jour est historique. Le Concorde va-t-il bien réagir au passage du mur du son ? L'autorisation de décoller est donnée. Le commandant pousse la manette des gaz en butée avant. Le bruit des moteurs s'emballe, les freins sont lâchés. Ça y est, l'avion est lancé. L'accélération est franche, très franche. En 30 secondes à peine, l'appareil passe de 0 à 400 km/h. Puis son nez soudain se lève, ses roues quittent le sol et le ciel bientôt est visible sous son ventre. Le Concorde progressivement prend de l'altitude. 10 000, 20 000, 30 000 pieds. Sa vitesse aussi augmente. Il s'éloigne à une allure sensationnelle de Toulouse. Quelques minutes seulement après le décollage, le voilà déjà presque à 100 km de son point de départ. Il est environ 11h25. L'objectif d'altitude de 36 000 pieds tout proche. Le Machmètre n'est plus bien loin du 1. Dans le cockpit, pas de sensation particulière. L'avion supporte parfaitement l'approche de cette frontière symbolique. À 11h29, désormais à plus de 120 km de Toulouse, le Concorde franchit le mur comme si de rien n'était. Il atteint Mach 1,05. À cette altitude, cela équivaut à une vitesse réelle d'environ 1100 km/h. Dans le cockpit, rien n'a trahi le passage, sauf peut-être un léger accroissement du bruit. Il tient l'allure près de 9 minutes. Ça y est, le Concorde est un avion transsonique. Désormais, ses vols d'essai, ceux du prototype 001 et de son jumeau, le 002, ne feront que grimper l'échelle des Mach. En novembre de l'année suivante, ils atteindront tous les deux, à quelques jours d'écart, la vitesse prodigieuse de Mach 2. Le record absolu du Concorde sera atteint par un appareil de pré-production, le 26 mars 1974, Mach 2.23, soit 2377 km/h. Jamais avion dans l'histoire de l'aviation n'avait subi autant d'heures de test. Plus de 5000 heures de vol, 2000 en vitesse supersonique. C'est environ 4 fois plus qu'un avion de ligne subsonique. Car le Concorde doit être parfaitement sûr. Il est destiné au transport de passagers. Ces deux tout premiers vols commerciaux ont lieu le 21 juin 1976, les deux à la même heure. Un vol Air France au départ de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar et un British Airways Londres-Bahreïn. Air France et British Airways seront les deux seules compagnies à exploiter l'avion. Étonnant pour un avion qui révolutionne le marché. Mmh. Mais le choc pétrolier de 1973 est passé par là. Et les quelques 16 compagnies qui avaient passé commande au moment de sa mise sur le marché ont fait machine arrière. Il faut dire que le Concorde n'est pas un avion bon marché. Son exploitation coûte cher, très cher. Pour un Paris-New York, par exemple, il consomme environ 4 fois plus qu'un Boeing 747. Le prix des billets s'en ressent d'ailleurs, 30 000 francs en moyenne pour un transatlantique. Mais la clientèle existe, forcément. Les 6 000 km qui séparent la capitale française de la grosse pomme, le Concorde les parcourt en seulement 3 heures et 36 minutes, soit 2,5 fois plus vite qu'un Boeing ou Airbus classique. Sa vitesse de croisière atteint Mach 2,02, soit environ 2179 km/h, et il monte jusqu'à 18 000 mètres d'altitude, contre 9 000 mètres pour les autres et 900 km/h. Plus impressionnant encore, il peut tenir cette allure pendant 3 heures, prouesse qu'aucun autre avion, même militaire, n'est capable d'égaler. C'est bien simple, on ne lui a connu qu'un seul rival, le Tupolev Tu-144. Mais cet avion russe, au demeurant très similaire esthétiquement, ne servira que quelques mois pour le transport de passagers. Le Concorde, lui, sera exploité au total 27 ans, de 1976 à 2003, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'ignorer son manque de rentabilité. L'avion, en effet, consomme beaucoup trop. Son exploitation est déficitaire. En outre, un crash dramatique précipite sa chute. Nous sommes le 25 juillet 2000.
Je conduisais et d'un coup j'ai entendu le Concorde qui décollait et j'ai regardé sur ma gauche et je l'ai vu qui arrivait avec l'aile gauche en flamme. Et d'un coup il a essayé de faire demi-tour et il s'est scratché.
Comme l'annonce se passant au micro du journaliste Donat Vidal-Revel sur Europe 1, le vol 4590 à destination de New York vient de s'écraser au-dessus de Gonesse, 2 minutes après son décollage de l'aéroport Charles de Gaulle. Le bilan est lourd, 113 morts. Dont 4 au sol. Les images terribles de son fuselage en feu font le tour du monde. Le nombre de réservations chute irrémédiablement. C'est le coup de grâce. Fait unique dans l'histoire des technologies de pointe, le Concorde n'a depuis pas connu de successeur. Pas encore du moins, car plusieurs projets d'avions de ligne transsonique sont en cours. Étoile filante dans le ciel de l'aviation, son existence n'a pas pour autant été vaine. Car au-delà du mythe, le Concorde a laissé un héritage pérenne que peu d'entre nous connaissent. On lui doit pourtant de nombreuses innovations techniques qui rendent plus sûrs les avions de ligne à bord desquels on embarque aujourd'hui. Le Concorde, pionnier ou mythique, fera toujours parler de lui.